On va pouvoir vous poser quelques questions. Alors, la première, quand même, c'est, si j'ai bien compris, ce comité de pilotage n'a pas vocation à mener des actions. Ce sont les membres du comité de pilotage qui mènent les actions qui auront été imaginées, le cas échéant, ou en tout cas discutées dans le comité de pilotage, c'est ça ?
C'est ça. En fait, c'est soit des actions, soit le fait de... Les discussions, des échanges d'informations... Ça semble, on a parlé tout à l'heure de se connaître les autres, en fait. Et donc, il y a une première base à acquérir au départ, quand on ne se connaît pas. Mais après, chaque institution change, enfin, évolue. Et il faut constamment pouvoir échanger sur les évolutions des différentes institutions. Parfois, des évolutions d'une institution peut être favorable à l'institution, mais du coup, avoir un impact sur le fonctionnement de l'institution à côté. Donc c'est un lieu aussi d'échange là-dessus, et pas seulement de conception d'action.
Et vous avez fait allusion dans votre propos préliminaire qu'il y avait eu une ouverture de 5 lits de crise et de 3 lits à temps plein. Vous pensez que c'est notamment grâce à la réflexion de ce comité de pilotage ?
Oui, je pense que c'est quelque chose qui remonte. Enfin, moi, je n'étais pas là, mais Guillaume peut peut-être en parler mieux que moi. Ça, c'est un des sujets qui a émergé de la fameuse restitution des groupes de travail à la fin de l'année 2009, début 2010, sur la nécessité d'avoir des lits de crise. Guillaume, je pense que...
Oui, bien sûr, oui. Enfin, je pense qu'on peut assumer cette paternité partielle, mais enfin, c'est une paternité quand même. On a besoin d'un lieu pour conflictualiser nos idées. C'est-à-dire que le problème des lits de crise, c'est un problème explosif, tout le temps, toujours. Donc, le fait de s'être vu 10 fois 3 heures et tous nos conflits interinstitutionnels sont régulés. Donc, c'est assez vif. Il y en a même qui partent parfois, mais qui reviennent quand même après. Donc, oui, mais et le fait que ça ne soit pas formel, donc c'est pas, en gros, ce n'est pas enregistré. Hein, le compte-rendu, il est édulcoré. Hein, quand même, on le fait nous deux, donc on enlève.
Méfiez-vous, aujourd'hui c'est enregistré.
Il y en a beaucoup. Oui, mais le. Mais c'est important, je ne sais pas si c'est du style marseillais, je n'en sais rien, mais le fait que tu puisses dire des choses, même excessives, et que ça puisse être régulé après, est quand même très très utile. Donc ce n'est pas très moderne, c'est contre la transparence et contre la. Très très peu transparent.
Enfin, c'est efficace donc. Des questions dans la salle. Monsieur Moulec pour commencer, madame ensuite. Levez la main les autres, 3 là-bas.
Oui, Gilles Moulec, vice-président de l'ADES, mais par ailleurs donc directeur d'Edouard Toulouse, qui est gestionnaire de l'unité de soins intensifs pour adolescents. Bon, je pense qu'en fait, le cœur du débat concernant cette unité, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour empêcher qu'une unité de crise devienne une unité d'hospitalisation pour adolescents tout court, dans laquelle les ados restent sédimentés indéfiniment au lieu de partir vers des solutions d'aval. Alors ça a été ça au début, ça va quand même beaucoup mieux. Voilà ce qu'on peut dire. Mais je prends aussi la parole par rapport à un autre sujet, c'est que dans les groupes de travail auxquels vous avez fait allusion, effectivement, il y a un des groupes qui a débouché sur la création de ce dispositif de crise. Il y avait un groupe qui portait sur la prévention et sur le repérage. Donc qu'est-ce que vous diriez sur le rôle du comité ado, enfin, surtout Guillaume qui est là depuis le début, parce que bon, Christine Chaffaut est arrivée dans un deuxième temps, mais qu'est-ce que vous diriez sur le rôle du comité ado pour améliorer l'interaction entre les institutions au niveau du repérage, parce que c'est quand même un sujet central de nos discussions.
On a quand même une représentation importante de dispositifs de prévention organisés comme tels, c'est-à-dire les espaces santé jeunes pour écoute jeune, maison de l'adolescent, les deux, etc. Donc cela rencontre les lieux où le dépistage ou la prévention précoce pourrait se faire, l'école, la PJJ, l'ASE, et c'est par cette rencontre-là, même si c'est pas le... Alors, peut-être une chose, mais c'était il y a 4 ans, c'était avant que tu arrives, une organisation assez bien régulée de lieux de consultation sans délai, c'est-à-dire sans les délais d'attente. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire pouvoir organiser une dizaine de lieux sur le département dans lequel tu peux venir appeler éventuellement avant et avoir une consultation sans délai, c'est-à-dire 48 heures au maximum. Ça, on l'a organisé. Il me semble que c'est des actions de prévention assez utiles. Le problème de ce genre d'action, c'est qu'il faut les entretenir de façon permanente. Et en tant que psychiatre, on est toujours attiré complètement par l'hôpital, par les lits, par etc. Et c'est vrai que dès qu'on a les lits qui passent sous les yeux, on oublie cette partie-là. Ça, c'est, je ne sais pas si c'est névrotique de notre part, je ne sais pas si c'est hospitalocentrisme à la française, je n'en sais rien. Enfin, en tout cas, Michel Amiel disait à quel point la nouvelle ministre de la Santé veut aller vers la prévention, mais c'est vrai que spontanément, dès que l'affaire des lits arrive, il y a une espèce d'excitation magnifique. Et c'est vrai que cette part, on l'a fait, mais donc tu nous rappelles qu'il faut qu'on le réchauffe.
Madame.
Amal Azel Massieu, directrice adjointe au centre hospitalier Théophile Roussel. Pour rappel, Théophile Roussel est situé donc à Montesson, mais il lui est rattaché trois secteurs de pédopsychiatrie dans les Hauts-de-Seine, donc dans le haricot que vous avez vu tout à l'heure, c'est la partie jaune. Je voulais témoigner des partenariats. Ça fait 10 ans que je travaille en psychiatrie et j'ai vu naître et mourir plusieurs partenariats qui m'amènent à réfléchir sur les déterminants d'un partenariat durable et efficace. Les expériences, le premier, je vous livre rapidement une synthèse de chacun des partenariats. Le premier a eu lieu notamment dans les Hauts-de-Seine, notamment avec la PJJ, l'ASE, un secteur de pédopsychiatrie, une expérimentation qui a duré 3 ans, formidable, d'accueil, d'aider des jeunes dans des familles d'accueil, qui a été concrétisée par une convention et une participation au financement entre les trois institutions. Et au bout de 3 ans d'expérimentation, il y a eu des restrictions budgétaires, chacun a retiré ses billes et je me suis trouvée moi-même à être obligée de licencier les 7 familles d'accueil. Et là, je me suis rendue compte du gâchis, parce que pendant ces années, ces familles d'accueil avaient acquis une expérience, une compétence auprès des ados et de cette population inégalable. Donc ça, c'est une première expérimentation qui est tombée, qui est morte sans suite. La deuxième, c'est la mise en place des commissions d'harmonisation partenariale cas complexes. Là aussi, initiative des institutions, et c'est exactement ce que vous venez de dire, on réunissait autour de la table les décideurs. Et il y avait, donc c'était à l'initiative du Conseil des acteurs des territoires d'action sociale, des médico-sociales, sanitaires. Il y avait dans le comité de pilotage l'UNAFAM, une expérimentation aussi qui a duré 3 ans, labellisée. Et puis un jour, le conseil départemental rentre dans une réforme institutionnelle. On a perdu la lisibilité et puis ça s'est arrêté. Et donc je me dis, voilà, le partenariat a-t-il une chance de vivre au-delà de 3 ans ? Est-ce que c'est comme la vie et l'amour, ça ne dure que 3 ans ? Quels sont les déterminants?
Certains disent que c'est plus. Alors, certains disent que c'est plus.
Parce qu'on nous pose souvent la question, etc., sur la durée, l'éternité, l'espérance, etc.
Bon. Quel âge a-t-il, rappelez-nous, le...
8 ans.
7 ans.
7 ans. D'abord, le fait que ces dispositifs partenariats meurent n'est pas pour moi un signe d'échec. Le fait qu'ils aient vécu et qu'ils meurent n'est pas si contradictoire que ça, car le partenariat est bourré d'affectivité, de subjectivité, d'espoir, de déception, de rencontre. En gros, c'est un dispositif extrêmement vivant, et tout ce qui vit, madame, meurt. Donc, bien sûr que ça meurt. Mais le fait que ça ait vécu, c'est après le lien au passé et à l'histoire, le fait que ça ait vécu te donne la première marche et toute la poussée pour y croire et en faire une nouvelle, plus adaptée, plus actualisée, etc. Et alors, 3 ans, c'est peut-être court. Nous sommes, vous êtes dans l'hôpital Théophile Roussel. Théophile Roussel, je rappelle, 1880 quand même, donc on a quelques souvenirs. Théophile Roussel, médecin, ministre, je crois, de la Santé et du Social, mais qui a fait les premières lois de protection de l'enfance. La première, celle qui te donne l'autorisation de retirer un enfant à des parents pour inconduite notoire. 1880, et donc il est toujours... Il doit y avoir un petit buste, quand même. Non.
Il y a plus que statue, je ne sais pas. Il y a même plus que ça.
Il y a plus que ça. C'est-à-dire... Non, mais c'est important, c'est-à-dire que c'est le rappel au passé. Il est absolument indispensable de l'avoir, mais de se dire que les choses ne sont pas si éternelles que ça. Alors, 3 ans, c'est peut-être court, je veux bien vous... Mais 4, 5, bon, allez, 8 ans, c'est beaucoup. Le fait que ça meure n'est pas un signe d'échec. C'est ça, mon idée. Mais... Par le passé, c'est mort, mais on repart.
Madame, je crois. Hein.
Oui.
C'était,
oui.
Vous pouvez lever la main ? Oui. Voilà, merci.
Nathalie Seigneurin, je suis directrice adjointe au Centre de santé mentale Angevin. J'étais en train de reformuler ma question, en fait, alors que vous répondiez à la seconde, puisque c'est un petit peu dans la continuité. Donc, on dit le partenariat dure-t-il plus de 3 ans ? Donc, je remonterai à la phase d'avant. C'est comment structure-t-on la phase de séduction avant les 3 ans ? Voilà.
C'est le moment le plus agréable, normalement.
Normalement. Pas toujours. Voilà, peut-être justement pour apporter cette nuance. Cette nuance, on a entendu donc le docteur Bonsard évoquer des leviers en fait pour faire vivre le partenariat. Moi, je distinguerais en fait un partenariat que je qualifierais de terrain, qui à mon sens fonctionne par nécessité, et les professionnels de terrain de pédopsie, de l'ASE, des structures médico-sociales se connaissent et travaillent. Et je pense que ça, c'est la réalité qui est partagée par de nombreuses institutions, nombreux établissements. Mais la difficulté du partenariat, moi, je la situe au niveau institutionnel. C'est-à-dire qu'on peut arriver à une réalité, au final, qui fonctionne, et on prend en charge les ados, mais on a du mal à structurer un partenariat entre institutions, établissements publics de santé...
Donc, vous leur demandez comment faites-vous, c'est ça, quoi.
Voilà, donc est-ce que vous avez un quatrième levier miraculeux, voilà, pour, en fait, faciliter ce partenariat, et j'irais même encore au-delà, un partenariat quand il implique aussi de mutualiser des moyens. Parce qu'un partenariat qui repose uniquement sur de la collaboration, c'est pas si difficile que ça à mettre en place et à formaliser. Mais quand on essaie de construire des dispositifs qui demandent à chacun de mettre un petit peu au pot, là, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué.
Et là, ce qui va être encore plus compliqué, c'est de répondre en 2 minutes. Parce que j'ai vu qu'il y avait une autre question derrière. Je suis le gardien du temps. Donc...
Je vois tout à fait, en fait, parce que je fais partie de l'ARS, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Après, on fonctionne dans un cadre. Quand je dis « on », par exemple, le financeur ARS, C'est de l'argent public, c'est de le national qui nous donne un budget, c'est pas l'ARS, c'est pas la poche de l'ARS. L'ARS, c'est juste... Enfin, si, il y a quand même des orientations. Mais ce n'est pas l'argent de l'ARS, c'est l'argent de l'État. Et donc, il existe des cadres de financement. L'ARS, que ce soit PACA ou ailleurs, ne peut pas inventer des nouveaux cadres... Les financements pour le médico-social, c'est pour le médico-social. On ne peut pas le basculer sur le sanitaire. On peut basculer des financements sanitaires sur du médico-social. Alors, ça s'appelle la fongibilité asymétrique. J'ai appris ça.
La fongibilité asymétrique. Vous notez.
Ce n'est pas très simple. Ça existe. C'est possible. Ce n'est pas très simple. Il n'empêche que c'est le nerf de la guerre. Et je suis d'accord avec vous, madame. À un moment donné, lorsqu'on parle de dispositifs de soins, il faut concrètement des locaux, du matériel, des ressources humaines. Après, il y a les dispositifs expérimentaux. Ça aussi, c'est difficile parce que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas de cases. Enfin, ceux qui ne marchent pas, il faut les arrêter. Sinon, ça pompe de l'argent qui ne va pas ailleurs. Donc, il faut une évaluation. Mais les dispositifs expérimentaux qui marchent, il faudrait les conserver. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de cases réglementaires. D'où la difficulté de les conserver, à travailler justement avec les institutions. L'institution ARS, si c'est, elle est toute seule à financer, ou alors des cofinancements, par exemple, avec l'OCD. On a eu des discussions là-dessus et on a résolu un certain nombre de choses.
Je rajoute deux petits leviers, ou peut-être je les mets plus en avant. Bien sûr, tout le monde a eu l'idée enseignement-recherche, tout le monde a eu l'idée des synthèses, tout le monde a eu l'idée des lits de crise, honnêtement. C'est le fait de les faire en même temps par les mêmes personnes. C'est ce triumvirat, un espace de pensée et de recherche, un espace de régulation des situations, et puis un espace de prise en charge fait par les mêmes personnes. C'est ça qui... Donc ça, c'est une petite originalité qui est bien tombée. Le deuxième, c'est qu'on ne s'est pas dilué trop, au moins, pas, on n'est pas resté dans la démagogie trop longuement. Bien sûr que les incasables, ils ne sont pas très nombreux. On les avait estimés à... Honnêtement, sur les enquêtes nationales, on est à... un millier dans le pays, c'est-à-dire une petite dizaine, enfin, selon la taille, c'est pas énorme, mais ces adolescents ont une capacité de destruction des partenariats absolument inouïe. C'est ce tout petit nombre d'adolescents difficiles qui explose les partenariats. Donc, on a quand même assumé qu'on s'occupe d'abord de ça. Et bien sûr que ça ouvre après à tout le reste, la prévention, l'éducation nationale, etc. Donc voilà, ça c'est peut-être deux trucs. Assumons que les incasables posent un problème à tous, et à chaque fois que tu vas de côté, ça ne marche pas. Et le coût des trois...
Et puis il y a peut-être un autre élément que vous n'avez pas cité, enfin j'ai l'impression, c'est peut-être l'énergie aussi, tout simplement, qu'on y met. Hein. C'est ça. Hein. J'avais l'impression. C'est monsieur qui voulait... Dernière question.
Dernière question. Une remarque qui appelle peut-être une question. Donc, je suis docteur Jouventin, je suis médecin psychiatre référent à la maison des adolescents du Vaucluse et médecin référent d'une équipe mobile. J'interviens aussi au niveau d'une commission interpartenariale des adolescents difficiles sur le Vaucluse, qui ressemble un petit peu au comité de pilotage qu'il y a là. Moi, la réflexion que j'ai, c'est on fait un lien entre comité de pilotage, de copilotage dans les Bouches-du-Rhône et lit de crise. Étant référent et lit de crise, référent d'une équipe mobile qui s'intéresse énormément au travail en liaison avec les foyers, qui intervient sur place pour aider les éducateurs, pour aider les jeunes qui sont sur place, pour travailler sur la question du soin, mais un soin parfois informel en allant les voir sur place. Et je me rends compte que je crois plus en cette capacité de pouvoir à travailler en amont qu'en aval. Et je pense que ce travail les foyers est fondamental dans la prévention des crises, notamment du vendredi soir, notamment, parce qu'il y a un travail de fond derrière qui se passe au niveau des foyers qui me paraît fondamental. Donc, une question, moi je crois plus à un travail d'amont en liaison avec les foyers qu'un travail avec des lits de crise. C'était juste pour faire part de cette réflexion-là.
Bien sûr, c'était les sujets de discussion et de conflit et du fait que l'autre y était sorti en claquant la porte, etc. Sauf que on a conclu que finalement, l'un n'exclut pas l'autre, voire l'un permet l'autre. C'est-à-dire que c'est parce que tu as des lits de crise que tu es au calme pour faire ton travail d'amont et d'aval. Et si les lits de crise sont vides, on aura gagné. Je suis d'accord avec vous. Mais on ne peut pas, l'espoir de l'efficacité totale de la prévention et de l'aval ne va pas suffire à désangoisser tout le monde, et l'angoisse des partenaires est un élément majeur. Nous devons avoir ce luxe-là de savoir qu'on ait un recours, même si on ne l'utilise pas. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas préférer l'un ou l'autre, il me semble que c'est absolument les deux.
Pour terminer, un petit mot de notre président de séance avant de la pause.
Oui, je ne savais pas que j'aurais à présider sur la question de l'amour et de la vie. qui mériterait un colloque à eux-mêmes. Mais peut-être dire que dans ces présentations que nous avons eues, la table ronde et votre intervention, qui d'ailleurs était tout à fait une sorte d'exemple concret, bien sûr, de ce qui a été discuté, nous avons vu quoi ? Nous avons vu d'abord un exemple de copilotage départemental. Nous avons vu un exemple de créativité institutionnelle. Le mot avait été employé tout à l'heure. De co-construction partenariale, je dis bien de co-construction partenariale, mais dans une légitimité qui doit être reconnue hein, par les uns et par les autres et acceptée. Et donc la création de quoi ? D'un outil commun. Un outil commun qui sera d'ailleurs d'autant plus efficace et pertinent que vous l'aurez, et c'est ce que vous avez fait, créé vous-même. Vous en avez détaillé certains aspects. J'ai d'ailleurs plutôt souligné avec un grand intérêt que l'ensemble des acteurs de santé, ce sont les termes aussi qui sont dans les circulaires et dans la loi, les acteurs de santé, n'est-ce pas, pour le projet territorial de santé mentale, eh bien, ils sont présents. Vous avez souligné notamment la question de nos partenaires du sanitaire privé. Et là aussi, je crois qu'ils sont indispensables à prendre en compte, et nous travaillons beaucoup avec eux sur ce sujet, puisque le point central sera bien sûr la gouvernance de l'ensemble. Alors, parce que, comment répondre à Madame de Moissel ? Madame de Moissel, les questions d'amour. Quand on s'aime, qu'est-ce qu'on fait à un certain moment ? Eh bien, se pose la question du mariage. Bon, alors le mariage, c'est passer de la passion au quotidien. Bon, parce qu'il y a quand même des choses à régler, ne serait-ce que les factures, excusez-moi, de cet aspect très peu romantique. Bon. Et lorsque nous avons d'ailleurs des outils aujourd'hui, peut-être, dont il faut, pour assurer la pérennité, effectivement, de ces relations qui peuvent sans doute s'interrompre un moment. Peut-être qu'avant de se marier, on a plusieurs relations, et puis voilà, bon, c'est la vie, des fiançailles, on peut même se fiancer, hein, on le fait encore à Marseille, apparemment. Et donc, à un moment, il faut passer au concret. Le concret, alors, il y a un certain nombre d'outils qui sont aujourd'hui, et je pensais notamment, pour les territoires de santé mentale, et il y a des projets de territoriaux de santé mentale, il y a donc là des acteurs qui se mettent autour de la table, il y a la pour la psychiatrie, il y a des communautés de territoire. Enfin, il y a toute une série de choses qui sont peut-être aujourd'hui à penser pour réaliser et pérenniser surtout ce que vous avez dit. Vous nous avez d'ailleurs montré que, au fond, il n'y a pas d'adolescents difficiles. Il y a des adolescents en situation difficile. Il y a, vous l'avez montré aussi, l'importance aussi de se parler, de trouver le lieu pour se parler. Lorsque j'ai commencé, excusez-moi de cet aspect un peu personnel, quand j'ai commencé la psychiatrie, j'ai commencé par la pédopsychiatrie. Et il y avait un pays qui me semblait très curieux, parce qu'on me disait, tu vois, ceux-là, ces enfants-là, ils viennent de l'ASE. Et ceux-là, ils viennent de la PJJ. Et je me disais, mais quels sont ces pays de l'ASE et de la PJJ? En plus, ils arrivaient dans des situations quand même bien compliquées. Et il a fallu du temps pour qu'on comprenne qu'effectivement, il existe derrière des institutions dont il faut connaître, bien sûr, les rouages, les organisations. Donc, voilà. Et pour terminer, je vous rappellerai, mais vous l'avez sûrement souligné, la question des lits est tellement essentielle que, d'ailleurs, elle a été de nouveau reprise dans le rapport de la mission sénatoriale. C'est la recommandation 24, qui a pu paraître peut-être un peu étonnante, mais pas tant que ça quand on connaît la situation et les situations du vendredi soir. Je vois que nous ne sommes pas les seuls à les connaître. Poursuivre le mouvement de réouverture des lits hospitaliers dans les territoires quand cela s'avère nécessaire. Et je pense que ce que vous avez montré montre qu'un certain nombre d'acteurs peuvent venir dire oui, c'est nécessaire, à partir du moment où on a anticipé un certain nombre de choses. Il ne s'agit pas que d'ouvrir des lits, bien évidemment. Voilà.
Merci, docteur Muller. Et merci donc aux docteurs Chaffaut et Bronsart pour leur présentation.